dès la première page, je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passé, présent et parfois même futur. Un livre, ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup...
Bonjour, des livres, oui mais quel livre ? Des livres que l'Oiseau des Lires est là pour vous faire partager, pour vous présenter ses coups de cœur. Aujourd'hui, eh bien, je suis seule, Annie de l'Oiseau Lire, et je vais vous parler d'un de mes auteurs préférés, Michaël Morpurgo. Je ne pouvais pas finir l'année sans qu'on vous en ait parlé. Et pour commencer, je vais simplement vous lire un extrait de livre et petit à petit, je vous ferai découvrir son univers. Puis, un matin, au point du jour, les troupes sont en état d'alerte dans les tranchées, dans l'attente d'une attaque des Allemands. Il regarde à travers le brouillard et aperçoit un cheval qui erre, perdu dans le no man's land. Père n'hésite pas une minute. Il adore les chevaux, tous les chevaux. Alors, il doit aller le chercher, non ? Il sort aussitôt de la tranchée et court vers le cheval. Le problème, c'est qu'il y a un Allemand qui fait exactement la même chose que lui. Les deux hommes se retrouvent donc au milieu, sous les yeux des soldats des deux armées. Alors, ils l'ont joué à pile ou face. Je t'assure qu'ils l'ont fait. Ils ont joué le cheval et père a gagné. Et, tu l'auras deviné, quand il a ramené le cheval et l'a nettoyé, il a vu que c'était un cheval bai avec une étoile sur le front et qu'il avait comme quatre chaussettes blanches. C'était Joey. Je sais que c'est difficile à croire. Mais c'est la vérité, je peux te le dire. Et ce n'est pas fini, loin de là. À la fin de la guerre, l'armée a décidé de vendre tous les vieux chevaux de bataille pour en faire de la viande. Oui, ils allaient les tuer tous. Ils allaient tuer Joey. Après tout ce qu'il avait subi, tout ce qu'il avait fait, ils allaient l'abattre pour la boucherie. Alors mon père a fait la seule chose qu'il pouvait faire. Il a racheté Joey à l'armée avec son argent. Toute sa solde qu'il avait mise de côté. Et à la fin de la guerre, il l'a ramené sain et sauf à la maison. Ce roman s'appelle Le secret de grand-père. C'est un univers où il y a une relation assez extraordinaire entre un grand-père et son petit-fils. Et ce grand-père, son père, était le possesseur du cheval que vous avez connu dans Le cheval de guerre, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont vu Le cheval de guerre, mais ils ne savent pas que c'est un extraordinaire roman de Michaël Morpurgo. Donc on a dans ce petit roman qui s'adresse à tous, aux jeunes lecteurs comme aux grands, parce que c'est un texte très fort, on a la vieillesse de Joey, on a comment il a pu vivre tranquille parce que il a été, grâce à un concours bête que l'on peut faire dans les campagnes, remplacé par un tracteur. Et on a une extraordinaire amitié, quelque chose d'extraordinaire entre un grand-père et son petit-fils. Et ce que l'on découvre au fil du récit, c'est que ce secret du grand-père, ce n'est pas l'histoire de Joey, c'est simplement qu'il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Et il va demander à son petit-fils de lui apprendre pour pouvoir lui raconter par écrit ce qu'il a vécu. C'est vraiment très très beau et très très fort. Et vous découvrirez à travers les romans que je vais vous présenter que souvent Michaël Morpurgo, pour nous emmener dans ses histoires, prend un enfant dont la vie a été perturbée par une guerre, par quelque chose de très fort qui transforme complètement nos vies, une amitié avec un animal. Et ensuite, il nous emporte dans une merveilleuse aventure humaine. Le suivant dont je vous parle, c'est Toro Toro. Et là, c'est un grand-père qui raconte à son petit-fils la plus grosse bêtise qu'il a fait. Et cette bêtise, ça a été de libérer le taureau qu'il aimait, qu'il avait élevé pour lui éviter la corrida. Il part avec lui dans la campagne, dans la forêt. Et à ce moment-là, arrivent des bombardiers qui bombardent la ferme dans laquelle vivent ses parents. Ils se retrouvent seuls, tous sont morts. Et c'est le premier village qui a été, pendant la guerre d'Espagne, anéanti par le premier village qui a disparu pendant la guerre d'Espagne, avant Guernica. Et Michaël Morpurgo, en se baladant, a découvert ce village et a eu envie d'écrire une histoire sur ce qui s'était passé. Et un gros coup de cœur qui est Le Royaume de Kanzuke, qui a eu au tout début des dévoreurs de livres le prix des dévoreurs. Celui-ci, c'est l'histoire d'un enfant qui, Michael, qui va embarquer avec ses parents à bord d'un bateau pour faire le tour du monde. Il vit sur une île, ses parents sont au chômage et au lieu de se morfondre, ils décident de partir faire le tour du monde avec leur fils Michael, un chien, et lui emporte son ballon, le lien avec son meilleur ami. Ils partent, ils voyagent, c'est la découverte de l'océan, la découverte de pays. Et puis un jour où il est seul à bord du bateau, il veut rattraper son chien qui est indiscipliné et il tombe à l'eau. Il tombe à l'eau avec le chien et le ballon. Et alors qu'il pense que c'est la fin, parce qu'il a beau battre des pieds, personne ne veut, les parents ne se sont pas aperçus qu'il était tombé, et il se réveille sur une île. Sur une île, avec son chien, avec son ballon, sur une île assez inhospitalière. Il ne trouve pas forcément de quoi se nourrir, il est piqué par les moustiques, c'est pas très agréable. Et au matin, il se réveille avec de quoi se protéger des insectes, avec de quoi se nourrir et nourrir son chien. Et il se rend compte que sur cette île, il y a un homme qui lui fait comprendre qu'il ne veut créer aucun lien avec cet enfant, et il lui interdit de faire du feu pour attirer d'autres bateaux. Et lorsque Michael essaie de faire un feu pour attirer les bateaux, il le détruit. Il vient, il détruit tout et il me regarda un instant. Je crus déceler dans son regard comme un éclair de compréhension. Puis avec la plus grande raideur, il s'inclina très bas en disant « Gomesai, Gomesai, désolé, très désolé ». Là-dessus, il me quitta et disparut dans la forêt, suivi des orang-outans. Je restai assis là à regarder la jonque jusqu'elle ne soit plus qu'un petit point à l'horizon, jusqu'à ce que je ne supporte plus la vue de l'océan. Je décidai immédiatement de le défier. J'étais si furieux que je ne me préoccupais plus des conséquences de ma désobéissance. Plus maintenant. Stella sur mes talons, je longeais la plage, puis m'arrêtais devant la ligne de démarcation sur le sable. Et là, délibérément, je la franchis. Je voulais qu'il sache exactement ce que je faisais. « Vous me voyez, vieil homme ?» lui criai-je. « Regardez-moi, je suis passé de l'autre côté. J'ai franchi votre ligne, imbécile. Et maintenant, je vais nager. Je me fiche de ce que vous pouvez dire. Vous pouvez arrêter de me donner à manger. Je m'en fiche, vous m'entendez, vieil homme ?» Je me retournai, traversai la plage en courant et me précipitai dans l'eau. Je nageais furieusement jusqu'à ce que je sois complètement épuisé loin du rivage. Dans ma fureur, je battais des pieds, faisant gicler, bouillonner et mousser l'eau autour de moi. « La mer est à moi autant qu'à vous, » criai-je, « et je nagerai autant que je voudrais. » Alors je le vis. Il apparut soudain en bordure de la forêt. Il me cria quelque chose en agitant son bâton. C'est à ce moment-là que je sentis une douleur cuisante dans la nuque, dans le dos et dans mes bras aussi. Une grande méduse blanche flottait juste à côté de moi et me touchait avec ses tentacules. J'essayais de m'éloigner, mais elle me suivait. Elle me pourchassait. Elle me toucha de nouveau au pied cette fois. La douleur fut immédiate et atroce. Elle envahit tout mon corps, comme une décharge électrique continue. Je sentis mes muscles se raidir. Je voulais battre des pieds pour me rapprocher du rivage. Mais ce fut impossible. Mes jambes semblaient paralysées. Mes bras aussi. Je coulais. Je ne pouvais rien faire pour m'en empêcher. Je vis que la méduse s'apprêtait à me tuer. Je hurlais et l'eau entra dans ma bouche. J'étais en état de choc. J'allais mourir, j'allais couler. Mais peu m'importait. Je voulais simplement que la douleur s'arrête. Et la mort, je le savais, l'arrêterait. Et cet enfant va être sauvé par le vieil homme. Il va être soigné pendant de longues journées parce qu'il est entre la vie et la mort. Et à partir de ce moment-là, une amitié extraordinaire va se lier entre cet homme qui, on le découvrira au fil du récit, est un Japonais qui a échoué là avec son bateau juste après la bombe sur Nagasaki. Il avait sa famille là-bas et il décide de ne plus retourner dans son pays. Et bien sûr, une amitié avec cet enfant L'enfant va essayer de lui apprendre sa langue et le vieil homme va lui apprendre à peindre Komokusai. C'est un très 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 beau récit qui se termine bien. Le récit de cet est fait 10 ans après la rencontre avec ce Japonais parce qu'il a fait promettre à l'enfant de ne pas divulguer sa présence sur l'île pour que personne ne vienne le chercher. Et comme il est vieux, il sait que 10 ans après, on pourra parler, il ne sera plus là. Un très, très beau roman qui a séduit de nombreux, nombreux lecteurs, indépendamment de ceux qui avaient voté pour lui, pour les dévoreurs de livres. Et ce qui ne gâche rien, c'est que ce roman est illustré, ce qui est rare pour les romans, par de superbes illustrations couleurs de François Place. Donc c'est un beau récit et un bel objet. Et maintenant, je vais vous parler de L'enfant de la jungle. Et L'enfant de la jungle, j'ai un certain plaisir à en parler parce que nous avons reçu Michael Morpurgo et il nous avait un petit peu parlé de l'origine de ce récit. Il a toujours été fasciné par Kipling et l'enfant de la jungle et par un poème de William Blake, Le Tigre. Il avait envie d'une histoire qui parle d'un éléphant, mais il ne savait pas comment l'amener. Et puis un jour, il s'est passé quelque chose qui a fait qu'il a pu écrire ce roman. Donc c'est l'histoire d'un enfant dont le destin est aussi changé par la guerre. Son père, Will, est tué en Irak. Et ses grands-parents, pour l'aider à reprendre goût à la vie, pour que la mère de l'enfant aussi oublie un petit peu sa tristesse, leur offre un voyage. Un voyage de rêve en Indonésie. Ils sont donc au bord de la plage et l'enfant est aussi fasciné par les éléphants. Donc sa mère va lui offrir une balade à dos d'éléphant. Et. Ce fut le moment que choisit Una, l'éléphante, pour s'arrêter sans prévenir. Elle regardait vers la mer et je sentais la tension dans son corps tout entier. Sa respiration était bruyante, saccadée. Puis elle leva sa trompe et se mit à souffler vers la mer en remuant la tête comme s'il y avait quelque chose là-bas qui l'épouvantait. Le mahout essayait de la calmer, mais elle ne lui prêtait aucune attention. Je regardais à mon tour vers l'océan et remarquai que l'horizon avait changé. On aurait dit qu'une ligne blanche avait été dessinée tout du long, séparant la mer du ciel. En regardant, je vis que cette ligne s'avançait vers nous, que la mer se vidait en laissant des centaines de poissons se débattre sur le sable. Una tourna, et avant que le mahout puisse l'arrêter, elle se mit à courir vers les arbres. Ses premiers pas précipités faillirent me faire tomber. Je parvins à rester assis en me cramponnant très fort des deux mains à la barre qui se trouvait devant moi. Je m'y agrippais de toutes mes forces, tandis qu'Una martelait la plage de son pas lourd en direction des ombres de la jungle. Et donc ce roman, c'est quelque chose qui s'est passé, le tsunami qui détruit toute une partie de la région et l'enfant est sauvé, et c'est quelque chose de vrai, parce qu'il est sur le dos de cette éléphante et il va vivre tout un temps sur le dos de l'éléphante, qui l'empêche même de se nourrir, avant enfin qu'une amitié se lie entre eux et qu'il puisse descendre et vivre un petit peu comme un Robinson, assister aux hommes qui viennent tuer les orangs-outans, qui déforestent la forêt. Et grâce à Una, à chaque fois, il restera à l'écart de cela jusqu'à ce qu'un jour, il puisse retrouver les humains. Donc un très, très beau roman qui nous plonge encore dans une histoire d'amitié avec des animaux, un fil conducteur, la guerre. Et je ne peux pas terminer sans Soldat Peaceful. C'est un très, très, très beau roman qui se passe. En ce moment, on est inondé par les romans qui se passent pendant en 1914, la guerre de 14, parce que l'anniversaire oblige. Et celui-ci a été écrit il y a bien des années. Ils sont partis à présent. Et je suis enfin seule. J'ai la nuit entière devant moi. Je n'en prendrai pas le moindre, perdrai pas le moindre instant. Je ne la gaspillerai pas à dormir. Je ne la passerai pas à rêver. Il ne le faut pas. Car chaque moment en sera beaucoup trop précieux. Je veux essayer de me souvenir de tout, dans les moindres détails. J'ai presque 18 ans d'hier et de demain, et ce soir, je dois me rappeler le plus grand nombre de choses, jours possibles. Je veux que cette nuit soit longue, aussi longue que ma vie, et qu'elle ne soit pas remplie de rêves flottants qui me précipitent vers l'aube. Cette nuit, plus que jamais dans ma vie, je veux me sentir vivant. Et le héros de cette histoire veut se sentir, Tomo, veut se sentir vivant parce qu'au matin, son frère Charlie sera fusillé pour insubordination pendant cette guerre horrible. Il a simplement refusé de monter à l'assaut alors qu'il savait qu'il serait tué, que l'adjudant est quelqu'un de complètement fou qui les envoie vers la mort. Son frère Tomo était blessé et il voulait être capable de le ramener pour qu'il soit soigné. Mais lui, et il savait ce qui l'attendait. Il sera fusillé à l'aube et Tomo passera sa nuit à se rappeler son enfance, sa vie, ses parents, son grand frère, son amour pour une jeune femme, tout ce qu'il a vécu avant qui lui permettra de rester en contact avec son frère en attendant qu'il soit fusillé. C'est très très beau, c'est très fort. Mikhaïl Morpurgo, un auteur à lire absolument. Et n'oubliez pas, les livres s'empruntent en bibliothèque et vous y trouverez tous les romans de Mikhaïl Morpurgo et s'achètent en librairie. Peut-être à l'année prochaine.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit.